Donc, j'ai essayé de jouer le même jeu qu'hier, mais peut-être un peu d'une autre façon, mais un peu toujours dans la même idée quand même. Voilà. Donc, je suis toujours Guillaume Serre, je suis toujours au laboratoire Actée, je suis toujours à l'ESPE de Clermont-Auvergne. C'était bien. Je vais essayer de faire un espèce de bilan et essayer de vous dire pourquoi je pense que c'était bien. Donc, vous devriez me dire tout de suite à quoi tu le vois. Donc, je vais essayer de dire, de me poser cette question-là devant vous et d'essayer d'y répondre. Il me semble que ce temps de travail, c'est important de le dire que c'est un temps de travail, il a réuni des acteurs. C'était pour moi une vraie, véritable réunion d'acteurs, de ce que j'en ai vu. Je pense que je n'ai pas tout compris de cette réunion d'acteurs, mais j'ai vu une réunion d'acteurs. Il me semble aussi que c'était bien, c'était réussi pour moi, de mon point de vue, parce que les questions étaient mises à plat. C'est pas si souvent qu'on peut dire ce qu'on ne sait pas faire. J'ai entendu des gens dire je sais pas si je peux faire ça, je sais pas si j'ai le droit de faire ça, je sais pas si ce que je fais c'est bien, je sais pas si ceci, cela. C'est pas si souvent qu'on a l'occasion de se dire ça. De se dire ça dans ces conditions. Voilà, pour moi, c'est une condition de cette réussite, de réussite par rapport à ce projet. Ça paraît rien, mais je pense que c'est dans les détails qu'on découvre les choses les plus importantes. Ça va être un peu le maître mot de cette conclusion pour moi, de ce que j'ai retenu de ces 2 jours. Voilà, l'importance du détail. Il me semble qu'on a fait un petit pas de plus, parce que j'ai l'impression que j'ai rencontré des gens qui m'ont dit je savais ça de ma propre activité, je le savais déjà, mais je ne savais pas si c'était pareil ailleurs, je ne savais pas si c'était si on le savait. Donc pour moi, c'est une réussite dans le sens où on est passé de je sais ça à on sait ça. Et on a pu réviser les je sais par rapport à ce qu'on a pu se mettre, ce qu'on a pu collectivement mettre sur la table. Donc pour moi, ça c'est aussi un pas de plus. J'ai rencontré des gens dans ces 2 jours qui m'ont dit ça, qui m'ont signifié ça. Voilà. À partir d'aujourd'hui, on sait que les autres cordeaux font ceci, que à tel endroit ça se passe comme ça, qu'on se ressemble sur tel ou tel point, etc. Là aussi, je crois qu'on a créé du savoir. Peut-être sans vraiment le savoir, mais voilà, on crée des repères, on crée des repères pour le collectif. Voilà. Ce que j'aimerais souligner également, que j'ai souligné hier, mais peut-être d'une autre façon, qui m'a semblé être aussi quelque chose que l'on voit en filigrane dans votre réunion de travail, c'est une forme d'engagement. Une forme d'engagement dans le sens où, bien sûr, vous êtes tous motivés, engagés, on le voit, il n'y a aucun doute là-dessus, mais c'est un engagement particulier, j'aimerais essayer de le qualifier ou de le préciser devant vous. Dépasser la déploration. Moi, il me semble qu'on a vu dans ces 2 jours que c'est une étape que vous avez franchie. Patrick vient de dire, j'ai pas eu le temps de l'intégrer, la meilleure défense, c'est l'attaque. Voilà. Donc, on est à côté du stade de Gerland. C'est bientôt le début de l'Euro. Voilà. Ouais, mais je supporte pas la SM, qu'est-ce que tu veux? Donc, voilà, il me semble que ça, c'est quelque chose aussi que je voulais vous renvoyer. Parce que c'est un progrès, c'est vraiment quelque chose qui me semble être la base nécessaire pour se réunir et travailler. D'une autre façon, il me semble que ce que j'ai retenu, c'est dans cet engagement, c'est une attitude positive qui consiste à dire que également le contexte est compliqué, mais si les gens font ce qu'ils font, c'est qu'ils ont de bonnes raisons de le faire. Et à partir de là, on travaille. Voilà. Et là-dessus, alors c'est une expression qu'on entend assez souvent, mais qui est une espèce de principe d'action qui est assez essentiel si on veut travailler, et surtout si on veut travailler à plusieurs, si on est dans un métier de la relation, si on est dans un rôle d'interface. Voilà. Donc ça, je crois que c'est également quelque chose que j'ai entendu dans ces deux jours et que je crois essentiel. Pour moi, c'est une des conditions de la réussite de la fonction de coordonnateur. Hein, voilà. Puisque je vous ai dit que c'était important de réfléchir aux critères, aux conditions de la réussite, j'essaye moi aussi de les mettre à jour pour vous. J'étais un tout petit peu déçu quand j'ai partagé aussi en arrivant le constat à Stéphane lorsqu'il a envoyé le programme avec ses collègues. Voilà, il est marqué dessus que pouvaient venir des coordonnateurs, mais aussi des chefs d'établissement, des inspecteurs, des IEN. Voilà, tous étaient invités. Et c'est vrai que cet intermétier, il n'est pas représenté comme on voudrait qu'il soit représenté. C'est quelque chose que je voulais souligner parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse attention à une chose là-dessus. Ce serait un point de vigilance par rapport à ce que j'ai envie de vous renvoyer. C'est le coordonnateur au cœur de la refondation, au cœur de nos affaires, au cœur de... Voilà. Mais pas que. Voilà. Pas que. Et j'ai l'impression que lorsqu'on crée une mission, fonction qui devient un peu spécifique à une question, ça décharge malheureusement une autre partie d'acteurs qui, du coup, pensent que c'est l'affaire du coordonnateur. Voilà. Je peux vous dire que dans mon milieu de travail, c'est exactement pareil. Si on crée des espèces de coordinateurs qui sont des interfaces à l'université entre l'administratif et le pédagogique, eh bien, vous apercevez que les pédagogues se déchargent d'un certain nombre de tâches. Et voilà, là je pense que c'est pareil, l'éducation prioritaire c'est l'affaire de tous, si on veut faire réseau il faut qu'on soit tous là, et ça serait un peu ma vigilance, voilà. C'est... Bien sûr le titre c'était coordonnateur, mais voilà, peut-être que si à repenser le titre de cette réunion de travail, il faudrait peut-être dépasser la fonction même ou l'acteur même qu'est le coordonnateur, mais voir comment est-ce qu'on peut l'inscrire plus largement dans une mission qui fasse qu'on reconnaisse sa place dans un collectif. Ce qui m'a semblé être aussi une bonne nouvelle, c'est les allers-retours entre le prescrit et le réel. La présence d'Anna Potier pendant deux jours, qui a écouté le travail réel. C'est pas si souvent que ça que les gens qui passent du temps à écrire le prescrit s'attachent à regarder ce que fait à écouter le réel. Pour le coup, je crois que ça c'est une très belle réussite aussi. Formation de formateurs, formation, un chantier. Moi, j'ai compris qu'il y avait de nouvelles choses à inventer, de nouveaux repères à se donner sur ces questions-là. Je suis reparti un peu chamboulé parce que je pensais à peu près tout avoir en tête et des idées claires sur ce que c'était que la formation et la formation de formateurs. J'ai l'impression que la façon dont vous vous emparez des objets bouge un peu les limites, voilà, autorise à se re-questionner sur ce qu'on fait dans ces cadres-là. Ce qui me dit que c'était bien, c'est les reprises. Il me semble que c'est assez original de garder certains d'entre vous demain pour essayer de faire une synthèse et de garder trace. Vous voyez, dans le travail, lorsqu'il y a une activité de travail, on a tendance à oublier de la capitaliser. Ça, on sait très bien faire dans l'éducation nationale, oublier de capitaliser, mais ailleurs aussi. Et là, ce que le Centre Alain Savary vous propose, c'est de le faire in vivo, capitaliser in vivo le fruit de votre travail. Voilà, en essayant de constituer à chaque fois des outils qui ont été constitués par vous, pour vous, pour vous aider à réussir. Voilà. Il me semble qu'il faut absolument souligner quelque chose qui, je peux vous le dire en tant qu'universitaire, est quelque chose de très précieux, c'est tout le travail qui est fait par l'équipe pour rendre accessible le travail de recherche. Moi, en tant qu'universitaire, je suis quasiment incapable de traduire mes propres écrits pour qu'ils soient lisibles, utilisables par des professionnels. C'est pas si facile que ça. On peut se moquer un peu de nous des fois, je veux bien prendre quelques remarques là-dessus. On est habitué à écrire selon des normes qui ne sont pas des normes usuelles, voilà. Et du coup, on n'est pas habitué à faire ça, voilà. Et il y a toute une opération de traduction, et il me semble que le Centre Alain Savary fait ça, j'ai envie de dire, voilà, de façon très discrète, mais on ne se rend pas compte de la chance que l'on a de disposer de ces ressources-là. On n'est pas seul. Voilà, ça aussi, je voulais insister là-dessus. Il me semble que c'est aussi un des résultats de cette réunion, c'est lorsqu'on est coordonnateur, lorsque demain matin, vous allez vous retrouver tout seul dans votre établissement, vous ne serez plus seul, moins seul en tout cas, après cette réunion de travail, qui a mobilisé quand même beaucoup de monde. Voilà, ça fait un effet de rassurance. Voilà, c'est important la réassurance, mais il me semble qu'il y a eu plus que ça ici. On a réfléchi à ce que c'était que le métier, une fonction ou intermédiaire, assez délicate à délimiter. Et j'ai voulu reprendre quelques citations, la citation du collègue ce matin, « Construire de petites routes dans un grand réseau ». Il me semble que c'est une assez belle image de ce qu'est l'activité du coordonnateur. Voilà. Je vais essayer de le reprendre un peu plus. Je voulais insister sur traduire le prescrit, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très important dans ce qu'on a dit pendant ces deux jours autour de cette nécessité de traduire le prescrit, pour pas que le prescrit nous dépasse quelque part. Alors cette traduction du prescrit, elle passe par des gestes que vous faites peut-être sans vous en apercevoir, donc c'est pour ça que j'essaye de mettre des mots sur ce que vous faites sans le savoir. Pour moi, vous faites de la transposition. Vous transposez des problèmes, vous essayez de cibler des problèmes, leur origine. Vous essayez de trouver ou d'enquêter sur la nature de ce problème. Ce qui a été dit tout à l'heure dans les présentations en début d'après-midi. Distinguer ces deux étapes, ça peut paraître quelque chose de complètement... ça peut paraître en détail, mais pour moi c'est vraiment le vrai travail, celui qui ne se voit pas. Trouver l'origine du problème, essayer de traduire ce problème-là, essayer de le transposer. Il me semble que une des questions aussi qui est importante, c'est la question de la hiérarchisation. Vous avez des choix à faire. Et ces choix, il faut que vous puissiez les faire de façon collective. Alors je me suis un peu amusé avec les mots, c'est une façon peut-être de vous aider à garder en mémoire quelques traces de mon activité. J'ai cherché une espèce d'alternative à ce que serait l'éducation prioritaire. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait essayer de chercher les priorités de l'éducation prioritaire. Vous voyez, l'éducation prioritaire, on voit bien que c'est pris dans une certaine signification. Mais je crois qu'il faut essayer de trouver des priorités dans l'éducation prioritaire. Voilà, c'est l'image des petites routes dans un grand réseau. C'est ce que nous a dit ce matin le collègue là sur le travail des chefs de projet. Pour moi, votre travail, c'est de construire des petits objets dans un grand réseau. Voilà, c'est un peu pareil, quoi. Et trouver les bons objets, ceux qui permettent qui soient l'interface entre les préoccupations de la ville, ceux du collège, ceux des écoles. Voilà, essayer de trouver les bons carrefours, les bons objets qui permettront de vraiment avoir des orientations fortes. Voilà, on parle de carrefour, d'orientation, vous voyez, on est sur ces espèces de métaphores qui sont vraiment très utiles. Bravo pour avoir mobilisé ce monsieur ce matin, qui a dû se demander ce qui lui arrivait lorsque vous êtes allé le chercher, j'imagine. Voilà, je trouve que c'est une belle réussite aussi de savoir regarder ce qui se passe à côté, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire dans nos métiers, il me semble aussi. Bravo Stéphane. Je voulais finir sur ça parce que je crois que c'est vraiment quelque chose que j'ai qui est assez évident dans votre travail. Il y a des détails partout dans le travail qui sont pas qui sont importants. Et il me semble qu'on a fait un pas de plus sur entrer dans les détails de votre travail. Moi, en tout cas, j'en vois pas mal. Peut-être que vous ne les voyez pas, mais mon intervention, j'espère qu'elle pourra vous aider peut-être à mieux les voir. Il me semble qu'on a fait un pas de plus. Voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a des détails qui n'en sont pas ou qui sont à prendre au sérieux. Voilà. Un travailleur discret, le coordonnateur, un travailleur discret en quête de reconnaissance. Moi, c'est ce que je retiens de ce que j'ai entendu. Et discret, c'est pas simplement un trait de caractère, vous voyez, c'est un travailleur qui fait des choses qui ne se voient pas, qui se voient très peu. Et aussi un travailleur qui travaille de façon très, dans de multiples situations. Un coup dans la salle des profs, un coup à la machine à café, un coup dans le bureau, un coup dans le collège. J'avais quelqu'un tout à l'heure qui me disait quelque chose de génial pendant qu'on mangeait à midi. Pour être à l'écoute des écoles, il me faut être dans le collège. Les collègues de l'école me disent « on voudrait vous voir plus souvent ». Et elle dit grosso modo, si je veux pouvoir ramener des ressources pour l'école, il faut que je sois dans les collèges pour mobiliser les acteurs. Donc, en fait, il faut travailler un endroit pour viser des effets sur les autres. Il faut aller dans un autre lieu pour avoir des effets à tel autre endroit. C'est une espèce de travail de fourmi, comme ça, avec des jeux de rebond. C'est comme ça que je vois l'activité du coordonnateur. Alors, je me suis un peu amusé parce que j'ai compris que ces réunions de travail aussi, elles pouvaient se faire dans la bonne humeur. J'ai partagé des bons moments avec vous et j'ai essayé de trouver des petites formules qui étaient intéressantes. Le collègue, c'est monsieur Jeannot, nous a dit ça ce matin. Il nous a dit « il faut être professeur sans être professeur ». Il faut être sans être. Donc c'est un peu de la philosophie, voyez, pour que vous puissiez rentrer chez vous le soir et pouvoir réfléchir à vos fonctions. J'ai fait un petit florilège de ça. Être sans être. Mobiliser les personnes qui ne seraient pas venues. Voyez, c'est une espèce de travail un peu bizarre où il faut systématiquement s'imaginer qu'à la réunion, il risque de ne pas y avoir quelqu'un, une chaise vide, le formateur académique. Vous voyez, c'est votre travail, il me semble, d'essayer d'anticiper les choses pour essayer de voir quelle chaise sera vide. Et du coup, faire un travail invisible qui consistera à faire ce qu'il faut pour que la personne soit là. Et le jour de la réunion, il y aura tout le monde autour de la table. Tout le monde pensera que c'est complètement normal que tout le monde soit là. Mais en fait, vous aurez fait un travail invisible. Voilà. Vous aurez fait ce qu'il faut pour que les personnes soient là au bon moment, au bon endroit. Et les situations de travail qui sont faites pour que le travail se fasse seront peut-être davantage utilisées comme de véritables situations de travail. C'est un peu le résultat de votre enquête, il me semble, qui peut peut-être évoluer. Donc, un travail invisible, un travail du détail, où il faut être sans être, où il faut mobiliser les personnes qui ne seraient pas venues. Voilà. Essayez de remplir les chaises et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de chaises vides. C'est ce que j'ai retenu de ce matin. Alors j'en ai d'autres. Il a l'émission d'un cadre, pardon pour le S qui manque, sans lettre. C'est ce que j'ai retenu, entendu, noté. C'était une citation de Madame Potier le premier jour de notre intervention. Là aussi pour moi, je l'ai relevé à plusieurs titres, voyez, parce qu'elle m'a interpellé et elle m'a laissé aussi un peu dans l'expectative. J'ai mangé avec Madame Potier à midi et je l'ai interpellé quand même sur cette idée que j'avais l'impression que le coordonnateur c'était quelqu'un à qui on demandait des choses. Et il y a une diversité de situations, mais il y a aussi une diversité de statuts, une diversité de cadres. Et voilà, j'ai essayé de discuter un peu avec elle. Il me semble qu'elle a entendu pas mal de choses sur ces deux journées. Je trouve que c'est là aussi un point de réussite. J'essaye de faire vite pour pas dépasser, mais Stéphane, tu me dis. Hein. Il me semble aussi que le travail du coordonnateur, c'est un travail de recherche. Alors, recherche de compromis sans compromission. Alors là aussi, c'est pour vous laisser à méditer. Vous voyez, une fois qu'on finit une formation, il faut vous donner envie de revenir une prochaine fois. Donc il faut que dans le train, vous vous mettiez à penser. Voilà. Compromis ou compromission? Est-ce que c'est juste des mots? Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut vous organiser, être assez structurant de votre activité? Voilà, les conflits de loyauté dans lesquels vous êtes, pour moi, on peut les organiser ou les théoriser ou les réfléchir à partir de cette idée. Je suis là pour des compromis, je suis un acteur de compromis, mais attention, pas de compromission. Alors celle-là, c'est celle que je pense être la meilleure image. Merci Stéphane encore, parce que je pense que c'est vraiment ça le travail du coordonnateur. C'est ne rien faire, mais que rien ne soit pas fait. Alors c'est pas de moi, je vous rassure, hein, c'est des penseurs chinois qui ont mis en avant ces éléments-là. Je pense que c'est tout à fait la phrase qui va avec l'image que tu nous as proposée. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette maxime chinoise, vous pouvez la retrouver dans un super bouquin qui est Traité de l'efficacité de François Julien avec deux L. C'est un petit bouquin qui est assez intéressant pour voir de quelle façon est-ce qu'on envisage l'action dans nos pensées occidentales et orientales. Voilà. Il y a vraiment ce parallèle-là qui est fait. Et je crois que pour un coordonnateur, lire ce petit traité de l'efficacité, ça peut être une bonne ressource. Voilà ce que je voulais vous dire. Ne rien faire, mais que rien ne soit pas fait. Je ne sais pas comment vous percevez cette petite maxime, il va falloir regarder un peu près, mais pour moi, c'est vraiment cette image-là. C'est, on est face à des blocs, des choses qui bougent très lentement. Si on veut s'amuser à les bouger, il y a deux manières de faire. Soit on sort l'artillerie lourde, et on risque de les abîmer, ces gros blocs. Soit on a l'intelligence d'aller chercher une petite corde que l'on dispose entre les blocs. Et c'est un peu ça la pensée chinoise, je pense. C'est bouger l'environnement, agir sur l'environnement sans que ça se voit trop, de façon très discrète. Et attendre que le temps fasse son œuvre pour que les blocs commencent à bouger, rencontrent la corde et suivent le mouvement de la corde. Et là, vous allez vous retrouver. Alors ça suppose quoi? Ça suppose d'apprendre la patience, parce qu'il va falloir attendre que ça bouge. Que ça bouge seul, que ça bouge... voilà, il ne va pas falloir forcer les choses. Mais par contre, il va falloir quand même mettre la petite corde, vous voyez? Voilà, ne rien faire, mais que rien ne soit pas fait. Voilà, des petits détails, pour moi, qui sont un peu le travail du coordonnateur. Essayer de faire bouger ces blocs pour avoir une action invisible, une action... Alors, il va falloir que la reconnaissance de votre travail, il va falloir la trouver chez vous-même. On sait très bien, et c'est pareil dans tous les métiers, vous allez lire 2-3 bouquins de Clos. Voilà, la reconnaissance de votre travail, essayez de la trouver. Voilà, dites-vous que tous les matins que ce que vous faites, c'est bien et vous avez raison. Voilà, je voulais juste finir là-dessus, sur cette petite image qui me semblait assez représentative de ce que j'ai vu de votre travail. Voilà. Alors...